Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne de nombreuses personnes, la protection juridique d'un proche vulnérable majeur. La maladie, le handicap, l'accident, l'affaiblissement dû à l'âge peuvent altérer l'ensemble des facultés d'une personne. Or, pour bénéficier d'une protection juridique, l'altération de ses facultés corporelles ne pourra être prise en compte que si elle est accompagnée d'une altération de ses facultés mentales, avec une incapacité à comprendre, à analyser et à décider par elle-même. Cet état la rend vulnérable et incapable de défendre ses propres intérêts. Dans ce cas, un juge, le juge des tutelles dans la plupart des cas, peut décider d'une mesure de protection juridique pour la protéger des autres et parfois d'elle-même, tout en lui laissant le plus d'autonomie possible. Afin de vous expliquer en quoi consiste exactement cette mesure de protection juridique, j'ai invité deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui font partie de la Fédération départementale des mandataires judiciaires indépendants. Il s'agit de Madame Odile Diot, qui en est la présidente, et de Madame Nathalie Rollin, qui en est la secrétaire. Madame Diot, pour resituer dans son contexte la protection juridique des majeurs, un peu d'histoire s'impose.
Oui, avant 1804, il n'existait pas d'unité en ce qui concerne les lois. Une personne de Strasbourg ou de Paris était traitée différemment. Mais c'est Napoléon qui concrétise l'unité des Français et de la France par le code appelé également Code Napoléon. Ce code fixe les relations de sociabilité, de famille et d'intérêt qu'ont les hommes entre eux. Ce code civil est devenu, au fil du temps, le livre de chevet, je dirais presque la Bible, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Actuellement, ce sont environ 800 000 personnes en France qui bénéficient de mesures de protection, dont 5 000 en Côte d'Or.
Il y a différentes lois ensuite qui viennent et qui prévoient des régimes de protection juridique. Je crois qu'il y a déjà la loi du 3 janvier 68.
La loi du 3 janvier 68 a effectivement statué et prévu trois régimes de protection, plus ou moins souples, suivant l'incapacité du majeur. La sauvegarde de justice, qui est une mesure temporaire sur un an, très rapide. La curatelle et la tutelle, qui est la plus lourde. On vous détaillera plus avant ces trois mesures. La quatrième loi du 5 mars 2007 est venue s'ajouter en mettant au centre du projet de la protection le majeur protégé. Il devient vraiment acteur de sa protection et s'est ajouté également le mandat de protection future. Dernièrement, la loi évolue toujours. Et en mars 2019, nous avons quelques informations complémentaires, notamment le droit de vote qui est rétabli pour tous.
Alors, c'est le juge des tutelles qui décide de la protection des majeurs, mais qui en fait la demande ?
Alors, j'allais presque dire tout le monde peut en faire la demande. Bien évidemment, le majeur lui-même qui a envie d'être protégé, qui se sent vulnérable, son entourage, c'est-à-dire son époux, son épouse, son compagnon ou les enfants. Cette demande est faite directement auprès du juge des tutelles. Une tierce personne, assistante sociale, médecin, banquier même, peut demander une mise sous protection et il s'adresse directement au procureur de la République.
Alors, comme je l'ai spécifié en préambule, il est nécessaire de prouver l'altération des facultés mentales. Qui est habilité à le faire, Nathalie Rollin ?
C'est un médecin expert agréé sur la liste du procureur. Cette liste est disponible au greffe de chaque tribunal. Et c'est avec ce médecin qu'il faudra prendre un rendez-vous pour avoir un certificat médical circonstancié.
Alors, une fois qu'on a les différents documents, non seulement la demande, mais aussi le certificat médical, à qui doivent être envoyés ces documents ?
Donc, il faut les envoyer directement au greffe du tribunal, au service des tutelles, donc suivant le tribunal là où on réside. Donc vous avez un tribunal à Dijon, un tribunal à Beaune, un tribunal à Montbard.
Et combien de temps s'écoule entre la demande et la convocation auprès du juge ?
Alors cela peut prendre plusieurs mois, en moyenne entre 3 et 6 mois, suivant le nombre d'audiences à prévoir. Chaque mois, une quarantaine de demandes de mise sous protection arrivent au greffe, par exemple à Dijon.
Alors, qui prend la décision finale de mise sous protection de la personne vulnérable ?
le juge prend la décision finale. Il a constitué tout un dossier, il a reçu obligatoirement la personne protégée pour l'écouter, sa famille, son entourage, et avec ses comptes rendus sociaux, il va décider de la mesure de protection.
Alors, c'est le juge qui décide de la mise sous protection, mais par qui peut-elle être exercée? Est-ce le juge qui décide là aussi du choix, Madame Diot?
Oui, c'est le juge qui a tout pouvoir et qui décide. En général, 50 à 60% des mesures sont confiées aux familles. C'est une force de la loi du 5 mars 2007 qui donne la priorité aux familles, qui est l'entourage naturel du majeur protégé. Ensuite, la mesure peut être confiée à un mandataire privé ou à une association comme l'UDAF.
Et alors, quels sont les professionnels habilités à exercer cette mission?
Les professionnels sont des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, tous titulaires d'un certificat national de compétences et tous agréés par le préfet.
Vous êtes bien sur RCF et au nom de la femme, je reçois Odile Diot et Nathalie Rollin, mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Donc nous en étions aux professionnels qui sont habilités à exercer cette mission. Madame Diot, s'il s'agit d'un mandataire privé, comment est-il choisi?
Il est choisi par le juge sur une liste établie par le procureur et souvent suivant les compétences que nous avions pu acquérir auparavant dans nos anciennes professions.
Madame Rollin, quelles sont les missions du mandataire judiciaire privé à la protection des majeurs?
Le mandataire privé doit vérifier les différents droits et les rétablir, gérer les comptes bancaires, payer les factures, être en contact avec tout organisme, tenter de favoriser l'autonomie au maximum du majeur protégé. Il s'agit d'avoir une grande disponibilité, de fournir un travail pratiquement sur mesure. Le mandataire ne fait pas de gestion au profit de la famille, il est tenu au secret professionnel. C'est ainsi que les comptes ne sont transmis qu'au majeur protégé et au juge des tutelles. Nous nous adaptons à toute situation, des appels téléphoniques tardifs, des questions de squatteurs à gérer par exemple.
Après avoir défini le rôle du juge et le rôle du mandataire, nous allons aborder maintenant les différentes mesures de protection juridique. Si j'ai bien compris, c'est le juge qui, selon le degré d'incapacité du majeur, décide de la mesure de protection juridique la mieux adaptée. Est-ce que vous pouvez nous les décrire avec leurs différences, en commençant par exemple par la sauvegarde de justice?
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire destinée à prendre en urgence les dispositions de sûreté indispensables. Elle permet au majeur de conserver ses droits, le juge des tutelles pouvant nommer un mandataire spécial qui gérera les comptes.
Ensuite, nous avons la curatelle qui peut être simple ou renforcée. Pourquoi ?
Pour la curatelle simple, le mandataire ne gérera que l'épargne du majeur qui reste en possession de tous ses droits. En curatelle renforcée, le mandataire va gérer toutes les factures, tous les courriers, etc. par rapport à l'incapacité du majeur. Mais à chaque fois, il va requérir l'assentiment, l'accord du majeur protégé qui va être informé.
Et puis il y a une autre mesure, la tutelle, qui est un régime de protection totale et une prise en charge complète.
Oui, l'incapacité la plus large et l'altération importante des facultés mentales, voire corporelles, empêchent toute expression d'une réelle volonté. Le juge statue sur une mesure de tutelle. Le majeur est représenté de manière continue.
Alors, les mesures sont prononcées pour 5 ans, puis éventuellement renouvelées. Mais entre-temps, si l'état de la personne sous protection se dégrade ou s'améliore, la mesure peut-elle être modifiée, Madame Rollin?
Tout à fait, bien sûr. Et il faut à nouveau redonner un certificat médical qui aggravera ou allégera ou donnera une main levée à la personne qui a eu son état modifié. Donc toujours la même chose, requête au juge des tutelles. La mesure, même si elle est pour 5 ans, peut être changée au bout de 2 ans ou au bout de 7 ans, peu importe. Mais effectivement, pas plus de 5 ans. Les derniers textes ont pu prolonger jusqu'à 10 ans si un certificat médical circonstancié permet de dire qu'il n'y aura pas d'amélioration.
Alors, les missions du mandataire sont très importantes. Est-ce qu'il existe des contrôles pour vérifier son travail?
Alors, nous sommes contrôlés par la greffière en chef de chaque tribunal et nous avons également un contrôle de la Direction départementale de la cohésion sociale, DDCS, sur nos méthodes de travail.
Donc vous venez de décrire les principales mesures de protection juridique d'un majeur vulnérable, mais depuis mars 2007, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, Madame Diou, est venu s'en ajouter une autre, le mandat de protection future. Ah ben c'est Madame Rollin qui va nous la décrire.
Donc c'est une préparation de son vivant, du choix d'un tuteur, au cas où à l'avenir on pense qu'on va être en incapacité si on devient malade, et on ne passe pas par le circuit du juge des tutelles, ça se fera chez un notaire.
Alors, il peut y avoir des recours possibles si un majeur en tutelle effectue un paiement par chèque, par exemple, alors qu'il n'en a pas le droit.
Effectivement, dès qu'on est nommé, on fait une demande au FICOBA pour connaître toutes les banques du majeur et on écrit en lettre commandée pour indiquer qu'on a la mesure. Donc, si le majeur a pu faire un chèque, c'est une erreur de la banque qui sera responsable.
Le mandataire, dépendant d'une association ou d'un organisme, est un salarié, alors que le mandataire privé exerce une profession libérale. Comment est rémunéré ce mandataire ?
Alors, c'est la loi, bien sûr, qui fixe la rémunération du mandataire. Suivant ses revenus, nous complétons une fiche qui nous est donnée par la Direction départementale de la cohésion sociale et la mesure peut être prise en charge entièrement par le majeur et l'État, ou bien par l'État uniquement.
Alors, comme vous êtes mandataire privé, vous n'êtes pas salarié d'une association ni d'un quelconque organisme, vous avez des charges, puisque c'est une profession libérale. Quelles sont les charges d'un mandataire privé, Madame Diou ?
Comme toutes les entreprises privées, nous cotisons à l'URSSAF, au régime de notre sécurité sociale, pour notre retraite. Et bien sûr, nous avons nos frais de fonctionnement de bureau. Nous pouvons dire qu'avec 50 dossiers, nous percevons environ un salaire de 2000 euros net par mois. Mais attention, ceci pour 60 à 70 heures de travail par semaine.
Pour être mandataire, il faut suivre une formation. Quelle est cette formation, Madame Rollin ?
Donc c'est un certificat national de compétences et il y a également qui fait 300 heures théoriques et il y a un stage de 10 semaines qui correspond à 350 heures de pratique auprès d'un mandataire. Et nous faisons également une formation continue par le biais de notre fédération et c'est très souhaitable.
Malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission, alors que vous pourriez encore évoquer d'autres mesures existantes mais moins connues, comme le mandat à effet posthume, par exemple. Mais je pense que ce que nous devons retenir de tout ce qui a été dit pendant ces 12 minutes, c'est que la mesure de protection judiciaire prononcée, quelle qu'elle soit, est mise en place pour protéger les majeurs contre eux-mêmes et contre les abus dont ils peuvent être victimes parce qu'ils sont particulièrement vulnérables. Je vous remercie, Madame Diou et Madame Rollin, de votre participation et de votre présentation si intéressante d'un sujet qui est particulièrement complexe et ardu.